Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Je propose que nous ouvrions notre Bible dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Matthieu, et je voudrais quand même préciser une petite chose, c'est que ce qui fait l'objet de notre réflexion ce matin, ça m'est venu tout simplement au fond de mon cœur, et le partager avec vous, parce que c'est un sujet particulier, comme bien d'autres d'ailleurs, c'est le rappel ou le souvenir de notre collaboration pendant 14 années, l'église de Redon et l'église de Saint-Nazaire. Voilà. Nous avons passé 14 ans ensemble, et ce que nous pouvons dire et ce que nous pouvons retenir, et c'est très positif, c'est que vraiment, nous avons marché ensemble. C'est vrai. On peut le dire. Marcher ensemble, il y a eu des moments difficiles, d'autres encore beaucoup plus difficiles. Mais une chose qui est certaine, c'est que nous avons apprécié, avec Myriam, tout ce cheminement. Et je crois que j'aimerais justement, eh bien là, donner pour la suite, votre suite, eh bien, ce thème qui est la motivation dans le service. Alors, vous l'avez fait spontanément. Nous avons passé, c'est vrai, du temps dans la prière, dans les moments qui n'étaient pas toujours très très simples. Mais ce que je peux constater, c'est que nous avons vu, le mot n'est pas trop fort, hein, certains le savent, vraiment le miracle de Dieu. Faut le dire, le miracle de Dieu. Et c'est pas forcément, eh bien, quelque chose de transcendant. C'est pas le boiteux qui marche au milieu de nous lorsqu'on lui impose les mains, l'aveugle qui se met à voir, etc., etc. Ça existe et on l'a vu dans le ministère. Mais c'est véritablement la manifestation de la souveraineté de Dieu par le Saint-Esprit au milieu de son peuple. Et ça, c'est important. Et j'aimerais justement pour la suite vérifier, enfin rappeler, ce sera simplement un rappel de ce que doit être la motivation, les mobiles du chrétien quand il sert le Seigneur. Alors on va voir ça ensemble, et c'est vrai que c'est un service commun. C'est pas l'affaire du pasteur seulement, c'est pas l'affaire des anciens prédicateurs ou quelques services particuliers, c'est l'affaire de tous. Et c'est important, alors on va retenir un petit peu ces choses. Et j'aimerais que nous fassions une première lecture, si vous voulez bien me suivre, dans Matthieu chapitre 20. Et nous allons voir le lieu où se situe finalement l'œuvre de Dieu, le nom qu'elle porte, le lieu qu'il porte, ce lieu, cette situation. Alors, Matthieu chapitre 20, verset 1er, « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison, qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et les envoya dans sa vigne. Il sortit vers la troisième heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne, je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la sixième heure, vers la neuvième et fit de même. Étant sorti vers la onzième heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Voilà, il est question de la vigne du Seigneur. Vous savez que c'est une des appellations qui est donnée à l'Église, parmi tant d'autres. Hein. Le champ de Dieu, là la colonne de la vérité, enfin il y en a au moins une dizaine. Il est question de la vigne. La vigne, c'est un lieu de labeur, c'est un lieu de terrain qui est prometteur, puisque quand le temps est venu, on y fait la vendange, la récolte, et ce qui en ressort est un bénéfice. En tous les cas, c'est toujours le raisin, la vigne, c'est toujours l'emblème de la joie, hein, quoi qu'il en soit. Alors voilà, c'est le maître qui va louer. qui va tout simplement chercher des ouvriers pour sa propriété et puis aller vendanger tout simplement. Il trouve des gens qui sont non pas oisifs, parce que s'ils sont là sur la place publique, c'est qu'ils ont l'intention de travailler, mais personne ne leur donne mandat, alors ils attendent. Et vous avez vu le découlement, la progression, première heure, deuxième heure, enfin je ne rappelle pas exactement là, mais toujours est-il qu'il y a là quelque chose qui fait que toute la journée il y a des demandes, et à travers le temps, à travers les siècles, à travers les décennies, l'Église elle progresse comme ça. Heureusement il y a du renouvellement, ça c'est une chose. Bon, simplement pour situer, nous allons lire également un deuxième passage, alors ça sera toujours dans l'évangile de Matthieu. Et là, il y a quelque chose qui va nous faire rentrer peut-être un petit peu plus près de notre méditation. Matthieu chapitre 21, verset 28. 28 à 31, c'est très peu de versets. Parabole fréquente de Jésus, parce qu'il illustre des grandes vérités à caractère moral et spirituel à travers des images, des allégories, on peut dire. Alors, que vous en semble, dit Jésus à ses disciples, un homme avait deux fils. Et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il y alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'y a pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Voilà, nous avons là quelque chose qui n'est plus un maître, mais un père, qui demande à ses fils où il y a le caractère de l'intimité, quelque chose qui rapproche finalement ceux qui vont collaborer. Il ne s'agit plus d'un maître, mais il s'agit tout simplement d'un père qui demande à ses fils. Alors l'un répond, moi j'irai pas, c'est catégorique, je reviendrai pas sur ma parole, il dit va quand même. Et puis l'autre, il lui dit, mais bien sûr, mais il n'y a pas de problème. Puis finalement, le père peut l'attendre longtemps parce que les vendanges, ils seront pas avec lui, de toute manière. Et puis, une troisième lecture, et c'est sur celle-ci que j'aimerais justement, donner peut-être un petit peu plus de détails. Matthieu toujours, chapitre 25, c'est une parabole. Toujours. Et qui nous enseigne sur les motivations, sur les mobiles, sur lorsque l'on fait quelque chose, soit on le fait pour soi-même, ou on le fait vraiment pour Dieu. Et c'est vraiment certainement les dispositions qui sont attendues dans une église de ceux et de celles qui sont reconnaissants d'avoir été sauvés et qui ont vraiment la vision de la pérennité de l'œuvre de Dieu et d'y voir, non seulement des œuvres, mais d'y voir aussi des fruits. Parce que il y a le distinguo à faire entre les œuvres. On peut faire beaucoup de choses. Le monde chrétien fait beaucoup de choses. On multiplie beaucoup de choses et on n'est pas les seuls. Parce que même dans le monde non chrétien, dans le caractère religieux, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Faut pas s'imaginer qu'on est les seuls. Mais je pense que dans nos églises évangéliques, je n'exclus pas qu'il y ait de bons sentiments ailleurs. Mais je pense que nous avons reçu un équipement qui nous permette d'aller encore beaucoup plus loin. C'est pas la performance que nous cherchons, c'est véritablement la gloire de Dieu et les fruits, mais les fruits de l'esprit. Alors, je vais lire simplement le premier verset et puis on fera le détail après. Vous connaissez la parabole des talents? Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Tout! Remit tout ses biens. Imaginez-vous que votre patron, demain matin, après ce qui va se passer cet après-midi, vous dise, mon entreprise, je te la remets. Je te fais confiance. Je reviendrai, je ne te dis pas quand je reviendrai, mais je reviendrai un jour et je te demande tout simplement de bien la gérer, de bien la mener. Ceci et cela. Vous y croyez? Non. Bon, alors, je ne veux pas m'étendre sur le sujet, mais j'aimerais quand même que nous nous penchions sur les vraies motivations des chrétiens au service de Dieu. Vous savez, on fait beaucoup de choses par habitude. Moi aussi, ça m'arrive, je me reprends. La routine, l'habitude, toutes ces choses qui viennent et qui reviennent, et puis quelquefois on ne prend pas toujours toute la mesure de ce que l'on fait, parce qu'on a tellement l'expérience, on a l'habitude de tout ça, et on le fait. Mais je pense que nous avons besoin souvent d'un rafraîchissement, même dans les choses les plus élémentaires. Quand je prends la Sainte Cène, on la prend tous les dimanches. Bon, c'est vrai que on est plein de pensées, de préoccupations, de projets, toutes sortes de choses, mais lorsque nous chantons, c'est pareil. Les cantiques que nous avons chantés, il y en a quelques-uns, on les chante depuis quelques années, hein. Alors, c'est toujours la même chose de dire, eh bien, écoute Seigneur, donne-moi de vivre l'instant. Parce qu'on est souvent parti dans le passé, ou on est souvent parti dans le futur, mais quelquefois l'instant présent, il est oublié, et pourtant, c'est, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde, hein. C'est là, c'est maintenant, hein, aujourd'hui. Alors, ces vraies motivations doivent nous caractériser. De temps en temps, il est un peu normal de dépoussiérer, de renouveler, de revitaliser l'instant dans ce que nous faisons. On l'a vu dans nos précédentes paraboles, servir n'est pas de rester à rien faire. Nous sommes sauvés pour servir, ça c'est une vérité. Si nous attendons maintenant, après notre baptême, que le Seigneur revienne, ben c'est bien. C'est une vérité à laquelle nous devons nous attacher, mais c'est comme ça. Donc rester sans rien faire, ce n'est pas servir. C'est, si je peux m'exprimer avec des mots simples, c'est mettre à profit notre temps. L'instant T, le moment, c'est être fidèle dans les petites et dans les grandes choses. Il y a des choses qui sont véritablement le quotidien, la routine, on l'a dit il y a un instant. Et quelque part, il y a une réflexion à tirer de tout cela, c'est que lorsque nous avons de grandes œuvres à faire, lorsque nous avons de grands projets, lorsque nous avons une grande vision, lorsque nous avons des perspectives qui sortent de l'ordinaire et qui nous secouent un petit peu en disant « tiens, ça change ». Alors, une chose qui est certaine, c'est qu'il faut bien comprendre que Dieu nous regarde, c'est vrai, dans les événements importants, dans les responsabilités importantes, mais il nous regarde dans les petites choses. Et tout cela pour aiguiser notre fidélité, la rafraîchir ou tout simplement la stimuler. Être fidèle dans les petites comme dans les grandes choses, en sachant que même dans les maximes de la vie des hommes, on ne peut confier de grandes choses que quand on a été fidèle dans les petites. C'est normal. L'éducation d'un enfant passe par là. Et puis même après, les apprentissages divers de la vie. Hein, toujours, on commence par ce qui est petit. Et ensuite, on arrive à d'autres situations. Je sais que le monde est renversé aujourd'hui, hein. Que quelquefois, eh bien, il y a des gens qui adviennent ou qui sont là élevés en dignité, alors que quelque part, ils n'ont peut-être même pas l'expérience. Ils ont peut-être la théorie, mais la pratique, c'est une autre chose. L'expérience de vie. Selon, nous avons vu, les capacités de chacun. Alors, c'est vrai qu'on pourrait dire que c'est injuste, parce qu'on n'a peut-être pas tous les mêmes capacités. Mais peu importe. Si nous regardons notre voisin en disant « il a ceci, moi je ne l'ai pas », je pense que ça ne peut pas fonctionner. Parce qu'on va rentrer dans ce que nous allons voir tout à l'heure, dans un système mental, dans un système de concurrence, d'émulation, qui n'est pas bon. Dans le monde, c'est comme ça que ça fonctionne, dans le monde sportif ou dans les arts ou autre chose, peu importe. Mais je pense, c'est selon la capacité, dans sa généralité, ou les capacités. Et je voudrais quand même vous dire quelque chose, parce qu'il est question des talents. Chacun d'entre nous, dites-le vous bien, vous avez tous quelque chose reçu du Seigneur pour le servir. Peut-être que vous le cherchez encore, mais avez-vous prié pour le trouver? Peut-être notre modestie nous dit, ben non, moi c'est pas pour moi. Ben vous savez, on peut avoir des surprises, parce que dans l'œuvre de Dieu, Dieu a toujours choisi des gens qui doutaient d'eux-mêmes, et non pas des gens qui étaient absolument sûrs et qui fonçaient et qui, quelque part, se retrouvaient le nez dans le mur. Hein. Ça, c'est vrai. Moïse, non, Seigneur, hein, tu en cherches un autre. Hein, moi, je sais pas parler. Hein. Et puis, nous voyons qu'il y a là tellement de... Ben, il y a les David hein, qui passent à un moment donné, des jeunes gens là qui vont dégringoler un Goliath. Ils ne l'auraient peut-être jamais pensé avant. Hein. Et c'est ça ce qui est important. Les capacités de chacun. Et moi, je vous invite les uns et les autres, et on en a déjà parlé, mais à vous tenir devant le Seigneur parce qu'on prie pour ceci, pour cela, etc., etc. Mais est-ce que vous avez prié pour vous, pour votre place, pour ce que Dieu vous a donné, ce que vous portez dans votre cœur, au plus profond de même, sans vouloir vous l'avouer à vous-même, ou peut-être dire, Seigneur, j'ai ceci qui me brûle, mais j'ose pas te demander. Ça me fait peur. On va voir, la peur, elle n'est pas toujours très bien orientée. Parce que la capacité de chacun, c'est à rechercher ce que Dieu nous a donné, et non selon notre ambition ou tout simplement nos goûts. Peut-être qu'il y a des enfants de Dieu qui disent, eh bien voilà, moi j'aimerais bien être ceci. Moi si j'ai un ministère de prophète ou un ministère miraculeux, moi je veux bien, mais si c'est en dessous, c'est pas... Non, ça va pas avec ma personne, vous comprenez? Évidemment, c'est encore quelque chose que je soulève et que nous allons retrouver plus loin. Le contexte est celui-ci. Il en sera, verset 14, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Verset 19, il est parti, mais il revient. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre compte. Eh bien, vous savez, ça évoque, ces deux versets 14 et 19, ça évoque tout simplement l'histoire de l'Église. Eh oui, dans sa durée, 2000 et quelques années, 2000 ans, l'histoire de l'Église. Jésus, son ascension, mais il nous a promis 319 fois dans le Nouveau Testament qu'il revenait. Jésus revient. Alors c'est pas notre affaire de quelques décennies en ce qui nous concerne, c'est l'histoire du christianisme, de l'Église chrétienne. Dans le temps et dans l'espace, on peut peut-être évoquer les choses, c'est l'histoire de l'Église et cette doctrine théologique s'appelle l'eschatologie. Vous avez peut-être entendu parler, c'est des mots compliqués, mais bon, en tous les cas, c'est une réalité, c'est une doctrine à part entière. Jésus est parti, il nous prépare une place, connaissez Jean chapitre 14 verset 1er, et il revient. Alors il revient pour deux raisons, en deux phases. Il vient chercher son Église par l'enlèvement, et il revient également par rapport aux nations pour apporter, eh bien là, le jugement des nations. Bon, on va s'arrêter là. Il y a un challenge. À tous les temps, dans tous les temps, à toutes les époques, et quelle que soit la déclinaison des Églises chrétiennes. C'est-à-dire, il le dira, lorsque je reviendrai, puisqu'il est parti, et qu'il revient, trouverai-je encore de la foi sur la terre? Et s'il y a une chose qui est importante pour chacun d'entre nous, pour l'Église d'aujourd'hui, l'Église locale, mais l'Église nationale, si vous voulez, l'Église mondiale, l'Église universelle, enfin, l'Église qui est présente aujourd'hui, c'est de maintenir la foi. Et on ne maintiendra la foi des hommes, des chrétiens convertis, que dans la mesure où on restera sur sa parole. Sans la parole, il n'y a pas la foi, puisque c'est elle qui suscite la foi. La foi naît de ce que l'on entend, et de ce que l'on entend vient de la parole de Christ ou de la parole de Dieu. Et ça, c'est notre rôle. Alors après, il y aura beaucoup plus de manifestations et toutes sortes de fruits qui viendront, mais trouverai-je encore de la foi? C'est la question qui est posée. Le maître, quand il part, c'est ce qu'il dit, hein. Il leur remit ses biens et il leur fit rendre compte. Quand il est parti, il a dit, mais quand je vais revenir, dans quel état je vais retrouver ma maison, mes biens? Ou Jésus pourrait dire, mais dans quel état je vais retrouver l'Église? Et ça, c'est notre responsabilité à tous. Notre responsabilité à tous, qu'il y ait encore la vie de l'Esprit. La foi de l'Esprit au milieu de nous, c'est important. Les talents, par rapport aux mines, puisque c'est un autre texte qui nous est donné dans l'évangile de Luc, les talents représentent les divers moyens d'action donnés par Dieu à son service. C'est un équipement. Et c'est ce que nous disions tout à l'heure, à nous de demander à Dieu, mais quelle est la part qui me revient, comment je peux bien véritablement être utile et faire fructifier ce que tu as mis dans mon cœur. Je voudrais ajouter un mot que nous connaissons tous, en latin fidelis, fidélité pour nous. La fidélité n'est pas tant l'habileté, à travers maintes et formations ou autres théologiques en ce qui nous concerne, mais ce n'est pas tant l'habileté et le succès, c'est un état d'esprit, la fidélité, et la qualité de nos actions prévaut sur la quantité de choses que nous accomplissons. Vous m'avez souvent entendu dire pendant toutes ces années que ce n'était pas tant de multiplier à profusion les actions, la quantité de ce que nous faisons, mais plutôt la quantité de ce que nous faisons, la qualité de ce que nous faisons. Ça, c'est véritablement, eh bien, l'essentiel. Nous partons souvent dans toutes sortes d'activités, mais moi, on m'a toujours dit, quand j'ai été formé sur le plan pastoral, on m'a toujours dit que, quelque part, c'était très important de faire le distinguo entre les autres, entre ces deux choses, entre la quantité et la qualité. On a toujours cherché dans le ministère, eh bien, non pas à créer des besoins, mais de répondre aux besoins. Et vous savez, on a déjà fort à faire quand on répond aux besoins des hommes, des femmes, de l'Église. On crée aujourd'hui des besoins. Et à un moment donné, eh bien, là, il y a comme un étouffement, il y a comme un manque d'oxygène quelque part. Parce qu'on a tellement créé, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, pour ceux qui travaillent dans l'Église, parce qu'on leur demande de trop. Ils sont là, eh bien, finalement asphyxiés, au détriment de la famille, du couple, au détriment peut-être de leur vie personnelle. Faisons moins, mais faisons mieux. La qualité, et non pas la quantité. Et nous sommes aujourd'hui dans une période où tout est production, tout est rentabilité, tout est consommation, et beaucoup de choses comme ceci. La parole de Dieu nous dit « Faites tout pour la gloire de Dieu ». Et ça me donne un autre regard sur ce que je suis en tant que chrétien, sur ce que Dieu attend de moi. Et il s'agit d'un zèle selon l'esprit. Vous savez ce que Paul dira des pharisiens de son temps, parce qu'ils y allaient, hein, les pharisiens. Vous savez, le monde religieux de son temps, il n'aura pas fait de cadeau. Hein. Il dira, ils ont du zèle. C'en était un ancien, lui, pharisien, il savait de quoi il parlait. Hein. Ils ont du zèle, mais sans intelligence. Ça ne voulait pas dire qu'ils avaient un petit problème cérébral. Ça voulait dire que ils étaient sortis du contexte de la vie de l'esprit, de la pensée de Dieu. Ah, vous êtes très fort pour votre tradition, mais vous oubliez le commandement de Dieu. Et je pense que quand il est question de faire tout pour la gloire de Dieu, c'est justement, eh bien, d'être animé d'un zèle, mais qui est celui de l'esprit. Et l'esprit ne va pas nous conduire à toucher n'importe quoi, à faire n'importe quoi, à courir de droite et de gauche. Paul le dit, je fais une chose. Je fais une chose. Je me consacre à une chose. Je ne cours pas dans tous les sens. Combien de fois dans le ministère nous avons été sollicités à rentrer dans des commissions, à courir de droite et gauche, Marseille, Bordeaux, etc., etc. Et très souvent, malheureusement, les pasteurs sont sur la route. Et quelquefois, ça fait plaisir aux chrétiens quand ils les revoient de temps en temps. Hein? Mais je pense que non. Je pense que c'est peut-être modeste, c'est peut-être quelque chose qui n'a pas de grande ouverture, mais c'est pas, nous devons pas rendre des comptes aux hommes, nous devons rendre des comptes au Seigneur. Et ça, c'est une autre affaire. Alors peut-être que c'est une chose à réfléchir. Le zèle selon l'esprit. L'esprit, il y a des choses qui ne nous demandent pas et que nous faisons pour, à titre occupationnel. Parce que nous avons envie, parce que nous nous ennuyons. Mais il n'y a pas d'ennui. Si nous voulons vraiment nous fixer à étudier la Bible pour la reporter ensuite dans l'enseignement à l'Église, si nous voulons véritablement travailler à l'édification du peuple de Dieu, si nous voulons travailler à l'évangélisation, si nous voulons véritablement nous consacrer à la prière, mais nous ne perdons pas notre temps, et véritablement, vous allez voir que le temps est court. Hein. Ça passe vite, hein, toutes ces années. Hein. Moi, je me revois encore quand j'avais une vingtaine d'années, je me dis, c'est pas possible. Hein. C'est passé très très vite. Et la vie, elle est comme ça. Hein. Alors, valeur et appréciation du travail de chacun. Et ça, je vais rappeler quelques principes fondamentaux d'équilibre dans la vie chrétienne et dans le service. Parce qu'on traite la question des mobiles, des motivations dans l'œuvre de Dieu. Hein, on le dit. Le verset 15 nous dit ceci. Le maître donna 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre et au troisième, un au troisième, à chacun. À chacun selon sa capacité. 5, 2, 1. Dieu ne se trompe pas, parce que Dieu, lorsqu'il nous mandate et qu'il nous donne 5, un autre, ça sera 2, dernier ou 1, c'est qu'il sait très bien ce que nous pouvons être capables de faire. C'est pas tant la capacité, mais la disponibilité, la souplesse, la flexibilité à vivre dans le cadre que Dieu nous a donné, avec 5, avec 2, ou tout simplement avec 1. C'est pas la peine d'outrepasser et de vouloir faire des éclats auprès des autres en disant, voilà, moi, cette année, j'ai fait, vous savez, on a fait 150 baptêmes, on a fait ceci et cela, vantardise. Et de vouloir rehausser les comptes de l'Église, par-delà même le chiffre que ce qui est sur le plan légal, eh bien la liste des membres, de dire, voilà, nous avons ceci, cela, etc. C'est quelquefois un petit peu tiré par les cheveux. Si nous avons 10 personnes dans une église, ben disons que nous n'avons 10 et non pas 40. Parce qu'il y en a un qui le voit et qui le sait. Hein. Vous savez que le Seigneur sait compter ? Sans machine à calculer. Hein. Il se débrouille bien. Hein. Non, il y a des exagérations quelquefois. Alors il y a d'un côté l'exagération et quelquefois il y a le sous-estimation. Un peu plus loin, il nous est dit ceci, ainsi, aussitôt, celui qui avait reçu aussitôt, hein, c'est important de le dire, hein, il n'a pas différé. Hein. Celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Et on parlera de celui qui en avait qu'un. Mais intéressons-nous au positif pour l'instant. C'est la liberté de faire et de ne pas faire. Vous savez, notre ami là qui dont le père lui dit ben écoute, va dans mon champ, dans ma vigne, et puis tu fais le travail que je te demande, hein. Il lui dit non carrément, mais il le fait quand même. Et puis l'autre qui, mais bien sûr, s'il n'y a pas de problème, je suis là pour te servir, et puis finalement il n'en fait rien. Donc faire ou ne pas faire. Et quand on regarde, quand on fait un examen des résultats, eh ben c'est positif, parce que le premier et le deuxième serviteur, le bilan est bon. Et vous vous rendez compte du 100% en quelque sorte. Hein. La réussite correspond aux soins apportés à l'exécution du mandat. Après, il y a l'œuvre à faire, naturellement, mais au mandat qui a été confié, dont voici les éléments du succès. Pourquoi ça marchait? Pourquoi quelquefois ça ne marche pas et pourquoi, eh bien, ça marche? Et là, c'est le cas où ça marche. Parce que premièrement, tout chrétien doit être conscient du privilège de servir le Seigneur. C'est pas une charge, c'est pas un ennui, c'est pas une contrainte, c'est pas un emprisonnement, mais c'est un privilège. Ouais. Heureux d'être chrétien et de servir celui qui nous a sauvés. C'est quelque chose d'important et c'est une communication que nous pouvons donner à l'Église, ce que je vous l'ai dit déjà. Quand le pasteur se sent bien à sa place et qu'il est heureux, je voudrais quand même vous le rappeler, il va nous rendre l'Église heureuse. C'est vrai. Mais s'il arrive là, moi, c'est aujourd'hui dimanche, j'aurais pu aller à la plage, etc., etc., par le beau temps qu'il fait. Non, c'est vrai. Bon, on peut toujours, excusez-moi, j'exagère. Mais c'est pour dire. Mais s'il est rempli de ce feu, de cette passion, de l'esprit, ce sera tout à fait différent, parce que c'est quand même lui le berger, hein. On m'a fait dernièrement cultivateur, hein, avec la vigne, avec l'olivier. Il me reste plus qu'une étape à prendre. Achetez-moi un mouton et je deviens berger. Pour ceux qui connaissent l'histoire, hein, voilà. Un secret, hein, n'allez pas le dire à personne. Hey, vous risquez de m'offrir un mouton quand même avant que je parte. Ah oui, mais je vous connais. Hein. Je me méfie. Bon, privilège de servir, d'accord? Ensuite, il y a la diligence et on revient toujours sur la question de la qualité. Il nous a dit aussitôt. Le maître lui a remis les 5 talents, il l'a fait, le deuxième c'était pareil. Après c'est la confiance. Qu'est-ce que c'est la confiance? C'est la foi. Si le maître m'a donné un ordre, eh bien c'est que je lui fais confiance, parce que s'il me l'a donné, c'est qu'il sait pourquoi il me le donne, et pourquoi il me l'a confié à moi-même. C'est vrai, confiance dans le maître. Et ensuite c'est la persévérance, parce que ça vient pas toujours tout de suite. Hein. L'apprentissage d'un service dans l'Église, ça se fait pas du jour au lendemain, un matin une révélation et que le soir vous êtes rendu là dans hein, 7e siècle. Pas du tout, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça. Il y a de la persévérance. Et combien de fois nous avons été trempés, exercés dans des petites œuvres où il y avait 3-4 personnes quand il s'agissait de faire de l'évangélisation, d'ouvrir une ville, on a des souvenirs mémorables, où ça ne dure pas un mois, où ça ne dure pas un an, mais qui peut quelquefois durer 10 ans. Et à un moment donné, ça s'ouvre. Ça, c'était quelque chose de formidable. Mais il faut tenir, tout simplement. Et puis après, c'est une affaire d'honneur. Oui. On met beaucoup de place à l'honneur aujourd'hui, hein, dans le monde extérieur. L'honneur. Mais moi, je pense que le chrétien, il doit pas avoir moins d'honneur que ceux qui sont sans espérance. Hein. Sans oublier la probité, parce que si je fais les choses, le premier aurait pu dire, il m'a donné 5 talents, mais j'en garde un pour moi, en réserve. Je veux lui en faire fructifier que 4, mais le 5e, je le garde pour moi. La probité. Et moi, je pense qu'il doit y avoir quelque chose. Et si les chrétiens ne le voient pas en tous les cas, le Seigneur voit un chrétien ou un pasteur doit être un homme probe et intègre. Il n'a pas à toucher certaines choses. Regardez Abraham. Je prends l'exemple d'Abraham, qui a tout laissé pour obéir à Dieu. Hein. Va, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, et va où je te montrerai. Quand il lui a dit, va, je te montrerai, mais il lui a pas montré tout de suite. Hein. C'était à chaque fois qu'il posait la plante de son pied sur un endroit, il était à lui, mais il fallait avancer. Un pas après l'autre. Et nous avons l'exemple d'Abraham, finalement, qui, lui, a obéi à Dieu, il a tout quitté, et il a tout reçu, parce que quand on le revoit avec l'histoire de son retour d'Égypte, avec son neveu, comment il s'appelait, Lot, il nous est dit que leur richesse et leur opulence étaient si considérables qu'ils ne pouvaient pas demeurer ensemble. Il avait tout laissé, mais il a tout reçu. Et pourtant, Abraham a une devise qui m'est très chère, rien pour moi. Rien pour moi. Et ça, c'est important. Ça devrait être la devise de tous les chrétiens. Parce que quand nous voulons nous approprier certaines choses, c'est là où nous ne les aurons jamais. Mais par contre, quand on dit « Seigneur, tu me donnes selon la mesure de ce que tu voudras », eh bien ça vient. Et je peux vous dire que nous avons fait des expériences extraordinaires dans ce domaine, où Dieu nous donne, alors que nous n'espérions pas. Et à l'inverse, le jeune homme riche, qui était riche au départ, refuse de suivre Jésus, et il perd tout, puisqu'il nous est dit qu'il s'en alla tout triste. Donc il y avait quelque chose qui était cassé dans son cœur. Mais il voulait bien suivre Jésus, mais il ne voulait pas laisser tout ce qu'il avait. C'est bien le problème. On va aller un peu plus loin. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, « Maître, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Vous remarquerez que la louange, que l'éloge est le même qu'on ait reçu 5 ou 2. Pareil. C'est exactement la même chose dans la déclaration du maître. Il ne fait pas de différence selon ce que l'un et l'autre a été capable finalement de rapporter. Nous allons voir très rapidement maintenant, nous allons faire l'examen du 3e personnage, parce que lui, il est quand même un petit peu particulier, il faut quand même dire quelque chose. Le 3e personnage, lui, avait reçu 1 talent, on l'avait vu, hein, et tout simplement ce qu'il nous a dit. Celui qui n'avait reçu 1 talent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais. » Qu'est-ce qu'il sait ? 3e personnage typifie un état d'esprit d'irresponsabilité. Oui, il a reçu. Quel honneur de recevoir, quel privilège de recevoir. Même si ce n'est 1 talent, c'est déjà quelque chose de très grand et de considérable. Mais l'irresponsabilité. Nous vivons dans une société où il y a beaucoup d'irresponsabilité. C'est vrai, ce n'est pas une critique, c'est une constatation. Où beaucoup de choses sont négligées, parce qu'elles sont plus intéressantes, ou alors on se sent un petit peu au-dessus des responsabilités qu'on nous donne, et à ce moment-là, on se dit, on méprise. On dit, voilà, tout ça, c'est pas très 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 intéressant. Et est-ce que c'était peut-être chez cet homme le dépit de n'avoir reçu 1 talent? Ça dénote un état d'esprit qui n'est pas forcément des meilleurs. Hein. Oui, ils ont reçu 5, 2, mais moi, on me donne 1 talent, alors qu'est-ce que je vaux? Qu'est-ce que tout cela, qu'est-ce que ça peut Parce que j'ai reçu qu'un talent, ça vaut vraiment pas la peine de faire l'effort. Ben, celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui en confiera de grandes, hein, je le rappelle au passage. Et ça suscite de la frustration. Quelquefois, nous le voyons dans les églises, et il faut accompagner ceux peut-être qui n'ont pas toujours très bien compris. La frustration, c'est quelque chose de terrible qui peut s'ouvrir sur toutes sortes de problèmes et de divisions même. La frustration, liée peut-être parfois à la jalousie, en regardant les autres, mais Dieu nous a jamais demandé de nous comparer aux autres, il nous a demandé de regarder à lui, les yeux fixés sur Jésus. C'est pas d'avoir les yeux fixés sur le pasteur, ou sur tel, peut-être, qui, voilà, a ceci et cela de particulier. Non! Et même celui qui aurait reçu, eh bien là, toute la grâce de Dieu, un apôtre Paul au milieu de nous, par exemple, qui avait tous les dons spirituels, ben non, c'est pas Paul, c'est Dieu. Et d'ailleurs, il le dira lui-même, hein. Toute capacité vient de Dieu, hein, c'est pas moi. Et quand on reste dans cet état d'esprit, bien, on a des chances d'avancer et de pouvoir marcher, finalement. La frustration, la jalousie, et puis bien d'autres choses. Et je le rappelle encore une fois de plus, s'il était nécessaire avant d'avoir beaucoup, il faut commencer avec peu. C'est un apprentissage nécessaire. Ce que nous avons appelé, ce que nous pourrions appeler les jours des humbles et faibles commencements de la patience et de la persévérance. Il y a nécessité pour quelqu'un qui est appelé au ministère de la parole de faire de la théologie, de pouvoir bien connaître et de maîtriser finalement la doctrine. Mais une chose qui est aussi en accompagnement et peut-être outil nécessaire, c'est la pratique, c'est l'expérience. Parce que ce n'est pas seulement de prêcher, mais quel est le rapport un pasteur peut-il avoir avec son église dans les relations humaines avec les autres chrétiens? Il peut très bien prêcher, mais s'il n'a pas le reste, ça ne marchera pas non plus. On l'a dit quelquefois, « Oh, il parle bien, mais dites donc !» Ça nous rappelle des souvenirs. La patience et la persévérance afin de résister aux pressions et les influences qui nous assaillera tôt ou tard. Parce que quelquefois, peut-être certains ont rêvé de dire « Ah ben le jour où je serai sur l'estrade, le jour où j'aurai vraiment une présidence d'église ou autre chose, ah là je serai quelqu'un ». Ben, je peux vous dire qu'il y a les deux faces à la médaille. C'est aussi, et vous le savez, on l'a partagé ensemble, c'est aussi des pleurs. C'est aussi quelquefois des grosses contrariétés, des grandes tristesses. Paul le dit dans ses épîtres, « Je pleure pour vous jour et nuit, je tremble, et c'est vrai. » Et ça, c'est une réalité. Vous savez, le ministère, c'est pas seulement que des baptêmes ou des mariages, hein. Ça peut être aussi des sépultures, hein. Ça peut être des déchirements, ça peut être des catastrophes par l'accident ou autre chose, où des frères et sœurs nous sont enlevés brutalement, je peux vous dire que c'est terrible. Et ça peut arriver même que le pasteur y parte, parce que quelquefois on s'est imaginé, parce qu'il était pasteur, il ne mourrait pas. Quelquefois il y a des petits rappels hein, pour nous dire, dis-donc, hein, combien nous sommes fragiles. Ça, c'est vrai. Alors, tout cela commence avec les faibles, les faiblesses, avec les humbles commencements, parce qu'il va falloir tenir le coup. Hein. Parce qu'il y aura des difficultés qui surgiront en raison de l'accroissement des responsabilités. C'est ça le problème. Je veux être ceci, je veux être ça. Mais il va falloir, excusez-moi, on est au bord de la mer, mais tenir la marée. Hein. Et il y a quelquefois, il y a des choses qui nous surprennent parce que nos adversaires, l'adversaire, c'est pas mon frère et ma sœur, c'est pas le monde autour de nous, hein, mais c'est l'ennemi. Hein. Et je peux vous dire que quand il peut faire des croche-pieds, il va pas se gêner. Hein. Il n'en fera pas qu'un. Hein. Et quelquefois, nous avons besoin d'avoir le discernement des esprits. Nous avons besoin d'avoir, toute la maîtrise aussi. Hein. C'est pas évident. Alors, toutes les oppositions, les critiques, les dissuasions de continuer. Et c'est pourquoi, finalement, le maître va dire à ce serviteur, troisième serviteur, tu es un mauvais serviteur. C'est terrible. Hein. C'est vraiment c'est un réquisitoire terrible pour eux. Mauvais serviteur. Vous avez remarqué avec moi, il en a reçu un, il en rend un. Ce n'était pas un indélicat. Ce n'était pas un voleur, non. Parce qu'il aurait pu mettre ça dans sa poche en disant, je ne sais pas, je l'ai égaré. Non, il ne l'avait pas égaré, mais il l'avait mis dans un linge, je crois c'est Luc qui nous le dit. Et le gros problème, c'est que ce n'était pas un indélicat, mais c'était un paresseux. Peut-être. Et son raisonnement pourrait être le suivant. « Ah, ce que le maître me demande, ce sont des exigences trop élevé. C'est le contraire de ce que... parce qu'il a envie de rien faire. Et puis, ça peut être... je vais perdre mon temps, je vais perdre ma liberté. Je pourrais tellement faire d'autres choses. C'est vrai que nous avons cette capacité de faire beaucoup de choses. Mais je pense que quand même, donner la priorité à Dieu, c'est important pour notre équilibre et notre vie et notre bonheur. Et notre réussite. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus le marché. On a vu des choses magnifiques et formidables. Ouais. Partir. S'engager pour le Seigneur et lui donner la primauté, la prééminence. Mais le Seigneur s'est occupé du reste. Quand on voit comment le Seigneur nous a bénis, comment il s'est occupé, nous, de son œuvre et lui, de notre famille, de nos enfants, de nos conditions financières, on s'est dit, mais c'est merveilleux, Seigneur. Hein? Vraiment. Et je peux vous dire que c'était pas un pourboire. Hein? Passez-moi l'expression. Hein? Vraiment. N'ayez pas peur de manquer de quelque chose, vous ne manquerez jamais de rien avec le Seigneur. Vous lui donnez votre vie, vous le servez, et vous verrez, vous allez, et on le verra à la fin, vous allez grandir, vous allez vous développer. C'est pas une prison en tous les cas. Hein. Triste constatation faite par Paul dans l'Écriture, quand il nous parle dans les Philippiens. Il dira cette parole, parce que c'est quand même, c'est écrit, hein, je pense que c'est quand même important de le citer. Il dira cette parole au Philippiens chapitre 2 et verset 21. Il dira, car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments. C'est terrible hein, d'être tout seul. Pour prendre sincèrement à cœur votre situation, tous en effet cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Et il dira à un moment donné, tous m'ont abandonné. L'apôtre Paul dit ça. Alors, c'est se donner coûte que coûte. Et vous savez, se donner ou donner, ça coûte. C'est une réalité. Il y a une note à retenir également dans la personnalité de ce troisième serviteur. C'est l'absence de son maître. Vous avez vu, le maître était parti, mais il est revenu. Et il s'est dit, voilà, il m'a remis un talent, loin des yeux, loin du cœur, comme l'on dit, je fais ce que je veux. Et c'est peut-être justement le problème des insuffisances de l'Église, parce qu'on dit, Seigneur, écoute, tu es parti, nous on est sur la terre, on gère, hein. Oui, oui, mais bon, on peut faire les choses avec approximation, hein. T'es pas là pour le voir, non, non. C'est vraiment faire fi de la parole de Dieu, où le Seigneur nous dit qu'il n'est pas seulement avec nous, mais il est en nous. Christ vit en nous, d'accord? Et là, on peut pas passer, hein. C'est pas possible. Nous devons avoir ce respect que le Seigneur n'est pas seulement au ciel, mais son esprit, je vous enverrai le consolateur. Consolateur dans votre œuvre. Consolateur dans vos souffrances. Consolateur dans votre service. Alors, là, la question se pose. C'est que, il savait que son maître était absent. Et il s'est dit, alors, la Dolce Vita, hein. Voilà, on va très bien, c'est bien comme ça, on va à notre mesure, c'est pas la peine d'en faire de trop. Peut-être que c'était son état d'esprit par-delà tout ce que nous avons dit. Alors, il manque, quelque part, l'estimation de la valeur de son salut. Vous savez, quand on est conscient d'être sauvé, on est conscient. Alors, à ce moment-là, on sait que notre temps, il est bref sur la terre. Mais on va donner tout ce qui est nécessaire. C'est pas une question de quantité, je le rappelle, mais une question de qualité. Donner le meilleur au Seigneur. Et il devait mésestimer la valeur de son appel au salut, parce que nous sommes sauvés pour servir. Il avait probablement une faible conscience des valeurs spirituelles. Il ne faisait pas le distinguo entre le sacré et le profane. C'était un Jacob. Vous savez l'histoire de Jacob dans la Bible, hein? Oh, il était prêt à faire des compromis, lui, hein, tout ce qui pouvait lui venir à lui, tout ce qui pouvait le servir, il prenait, hein. Alors, on connaît un petit peu le caractère et le tempérament de Jacob, hein. C'était un drôle de garçon, hein. Ça, c'est certain. Il faisait pas la différence entre le sacré et le profane. Il y avait probablement chez ce troisième serviteur le mépris, le désintérêt de son maître, en se disant, mais à quoi ça sert? Ben oui, mais ça sert à quelque chose. Parce que ce n'est pas une dimension matérialiste, matérielle, terrestre, humaine que l'Église, c'est une dimension spirituelle. Et nous le serons que de l'autre côté. Mais néanmoins, nous le savons. Et puis, il avait probablement une vision à court terme de l'enjeu personnel qui pouvait être le sien. Pourquoi Adam a-t-il cultivé le jardin d'Éden ? Question. Chapeau de paille sur la tête, la petite binette, et puis voilà le tablier bleu, je m'évade. Pourquoi Dieu, la première chose que Dieu a donnée à Adam, de cultiver la terre, de cultiver le jardin. Remarquez, ça devait bien pousser, hein, parce que quand on voit les richesses et la splendeur, la luxuriance de ce jardin, c'était pas pour avoir des fruits, parce qu'il avait juste à tirer d'un arbre ou d'un autre, c'était pas ça. Hein. Parce que en mettant Adam dans cette condition de vrai, de travailler, c'était pour développer sa personnalité. Et on le voit encore aujourd'hui, quelqu'un qui est oisif, il ne peut pas vivre comme ça dans l'épanouissement, et c'est pas possible. Alors il y a des oisivetés, pas volontaires, mais je veux dire involontaires. Mais une chose qui fait que l'homme va se développer intellectuellement, sur le plan cérébral, sur le plan physique, sur le plan moral, c'est qu'il va être confronté avec la responsabilité de son travail. Et il va se développer, il va apprendre, il va vivre une dimension sociale, il va vivre également, eh bien là, quelque chose au niveau intellectuel. Et c'est ce qui va lui donner véritablement son accomplissement d'homme dans cette vie. C'est important. On voit les malheureux qui sont sans travail et qui, quelquefois, finalement, se laissent aller. Ils se laissent aller à toutes sortes de choses pour échapper, des ivresses d'une manière ou d'une autre, parce que finalement, il n'y a pas de but à leur vie. Mais quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui va véritablement être motivé pour sa famille, pour lui, pour gagner ce qui lui est nécessaire. Et Dieu avait donné à Adam la nécessité, l'avait mis, mais c'était pas le travail d'aujourd'hui, hein. Travaillez pas sur ordinateur. Mais toujours est-il que c'était pour développer sa personnalité. Et c'était le développement de soi. Et quand on travaille pour l'œuvre de Dieu, je parle pas de l'extérieur, mais quand on travaille pour l'œuvre de Dieu, il y a un développement spirituel qui va se faire automatiquement. On va grandir, hein. On va se développer. On va peut-être prendre des coups, d'une manière ou d'une autre, hein, parce que le travail n'est pas toujours facile. Mais on va être confronté, vous savez, avec les autres, avec nos frères et nos sœurs. Et ça, c'est comme la pierre qui descend de la montagne, elle est angulaire, elle coupe. Mais quand elle arrive, par exemple, à Saint-Nazaire, elle est toute ronde parce qu'elle s'est frottée dans les eaux du torrent, de la rivière. Et elle est belle. Elle est bien ronde. Eh bien, ça, c'est ça aussi l'œuvre de Dieu. Si moi je dis que je suis chrétien, mais je suis chrétien chez moi, dans ma tour d'ivoire et que je ne veux voir personne, à ce moment-là, je serai peut-être chrétien, je croirai en Jésus-Christ, mais il manquera une dimension. Ça, c'est clair. Et puis, il y avait chez ce troisième serviteur la crainte de l'effort, tout simplement. La désinvolture, probablement, la négligence. Et je finis. Alors, le bilan ne peut être que négatif. Nous voyons au verset 24 cette parole. Cet homme s'est présenté devant ce maître, son maître. « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends-le, prends ce qui est à toi. » Eh oui. C'est le triste exemple du fils aîné de la parabole du fils prodigue. Ça vous rappelle rien? Il y a celui, le mécréant, qui revient. Il revient, il est sale, sale dans tous les sens. Il vient en oripeau de misère. Mais il se repent, il vient devant son père en disant, « Seigneur, pardonne-moi, reprends-moi comme ton fils, parce que j'ai fait des expériences, finalement, j'ai plus envie de revivre. » Il revient et le père le prend, l'embrasse, lui met un anneau au doigt, des souliers aux pieds et une belle robe. Et on fait la fête. Et pendant ce temps-là, il y a le frère qui commence à entendre la musique et les chants. Il se dit, « Mais c'est pour moi, c'est mon anniversaire aujourd'hui. » Parce qu'il pensait qu'il y avait que pour lui. Et on s'aperçoit que il va se mettre en colère. Parce que le père a fait grâce à son fils qui est revenu de la misère, de la perdition. Et il va faire des reproches à son père, comme celui-ci fera des reproches à son maître. Tu es un homme dur, tu m'as jamais donné un agneau pour me réjouir avec mes amis. Mais mon fils, tout ce que j'ai est à toi, pourquoi tu ne l'as pas pris et pourquoi tu ne l'as pas fait? C'est l'esprit légaliste dans les églises, ça. On n'est pas sous la loi, mes frères et sœurs, on est sous la grâce. C'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Ce serviteur se glorifiait de lui-même. Il n'a rien fait, mais il se glorifiait. Le fils aîné se glorifiait. Et puis quel langage il a eu, le fils aîné, hein. Tu te rends compte, ton fils, il a croqué ta fortune, il a vécu avec des prostituées, et tu l'accueilles comme si rien n'était? Eh ben oui, ben c'est ce que Dieu a fait avec chacun d'entre nous. On n'est pas venu tout propre, hein, non? Ben, je ne voudrais pas vous rappeler des tristes souvenirs. C'est l'aveuglement servile. Et il ne faut pas être dans l'Église avec un aveuglement servile, ou fonctionner avec la servilité. Nous ne sommes plus des esclaves, nous sommes des hommes libres. Nous avons la liberté en Jésus-Christ. Nous ne devons pas être mesquins de cette mesquinerie de la propre justice. Regardez comment les pharisiens ont été rayés de la carte. En deux temps de mouvement, Jésus a été beaucoup plus sévère avec les pharisiens qu'il ne l'a été avec les gens de mauvaise vie. Oui, la propre justice, dont les causes inavouées sont la jalousie, la rivalité, la concurrence, les rivalités de rang et les rivalités de comparaison. Le fils aîné, le fils, eh bien, le cadet, fils prodigue. Ou alors, il en a reçu 5, il en a reçu 2, moi j'en ai reçu 1, alors. Ça ne peut pas fonctionner quand on a un état d'esprit. C'est pour ça que j'ai titré les motivations, les mobiles dans notre cœur. L'aigreur, l'amertume, la concurrence. Eh bien, tout ça, ce sont des mouches mortes qui infectent l'huile du parfumeur. Vous connaissez ? Ecclésiaste. Les mouches mortes. Et il faut absolument que dans nos communautés, il n'y ait pas ces mouches mortes, qu'il n'y en ait plus. Et il va sortir des arguments injustifiés. Tu es un maître dur. Tu es ceci. Vous savez, la peur est mauvaise conseillère, hein. Pleine de préjugés indignes, parce qu'il va dire ça à son maître. Tu te rends compte, tu as vanné là où tu n'avais pas semé. Tu as ramassé là où il fallait. Voilà. Parce que, Ce n'est pas voir en Dieu le Père de la grâce qui bénit ceux qui le servent de tout leur cœur. Nous avons affaire à un Dieu qui se plaît et qui trouve son plaisir à nous voir le servir, et je ne veux pas le voir autrement. Moi, je n'ai jamais servi depuis 40 ans dans l'œuvre avec cette conception que Dieu est un Dieu qui punit, qui nous attend, qu'il est un petit peu, vous savez, comme le gendarme de Guignol avec la matraque sur le dos en disant « pom » sur la tête. Non, non, c'est pas ça, hein. C'est un Dieu qui nous accueille. Et nous faisons des erreurs. Nous avons nos faiblesses. Nous avons toutes sortes de choses. Mais Dieu reste bienveillant, parce que ce que nous n'avons pas appris aujourd'hui, nous l'apprendrons demain. Il est toujours prêt à nous reprendre pour nous remettre en route. Quand on est sincère, naturellement. Ça va de soi. Mauvais et méchant serviteur, n'aimant ni Dieu, ni ton maître, ni le privilège de travailler pour et avec lui, ignorant ce qu'est l'amour du travail. L'œuvre de Dieu, son œuvre, le bonheur que tout service dans l'Église peut procurer d'épanouissement moral et spirituel. Frères et sœurs, peut-être y a-t-il une réponse pour certains, et nous partageons avec vous votre recherche, votre aspiration pour grandir devant le Seigneur. Eh bien, n'hésitez pas à répondre à son appel de service. Nous avons été réjouis pour notre dernière année avec un bon groupe de jeunesse formidable où les jeunes sont venus nous voir en disant « Nous voulons servir dans l'Église ». C'est formidable, hein ? Merci, hein, les jeunes, vous pouvez y aller, hein ? Ah oui, je peux pas vous dire que je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde, hein. Mais une chose qui est certaine, c'est que nous avons été réjouis, hein. On en a vu des groupes de jeunesse, hein. Ah, c'est sûr. Mais là, ça nous a fait du bien. Et on a dit, alors qu'on voulait tout lâcher l'année dernière, hein, pour les raisons que vous connaissez, eh bien, on s'est dit, mais Seigneur, moi, quand au mois de septembre, Myriam me dit, il va falloir reprendre les réunions de jeunesse, j'ai dit, non, non, oh non, c'est pas possible. C'est vrai, je le dis sincèrement. Et puis, elle a fait le compte, elle a dit, 19 jeunes, 18, 19 jeunes. Ah, elle m'a dit, et nous, on s'est dit tous les deux, on veut pas les lâcher, hein. C'était formidable, hein. Eh, je vous ai quand même pas emmené en galère, hein. Seulement en canoë. Et on a failli avoir des noyades il y a 15 jours, hein. Mais Dieu merci, nous sommes tous vivants. Merci Seigneur, hein. Alors continuez les jeunes, allez-y, prenez votre place dans l'Église. Vous avez toutes sortes de choses, il y a tellement de besoins dans l'Église. Alors allez-y, hein. C'est la condition pour grandir et s'épanouir, hein. Et je termine par un texte de Josué, enfin une question de Josué. Parce que c'est un choix maintenant, c'est un engagement. Écoutez bien. C'est Dieu qui parle à Josué, et Josué va le dire au peuple d'Israël. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve en Égypte et servez l'Éternel. Il y a tellement d'idoles dans notre vie. Les jeunes ont beaucoup d'idoles aussi, c'est normal. C'est la vie, c'est la pénétration du monde d'à côté, tout simplement. Beaucoup d'idoles. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que vous servez, que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous donne sa grâce. Mais en tous les cas, encore, moi je remercie le Seigneur d'avoir partagé avec vous pendant toutes ces années. Ça a été merveilleux et formidable. Et ça, c'est quelque chose d'important. Alors nous allons prier. Et nous allons passer au repas de Sainte-Cène ensuite. Seigneur, je te rends grâce et je te remercie. Parce qu'il y a des moments où, Seigneur, nous pouvons être découragés. Nous pouvons être exaspérés parce qu'il y a tant de situations qui viennent, qui se font jour et qui prennent véritablement notre énergie, qui, Seigneur, surtout les choses matérielles, qui n'arrivent et qui ne cessent pas. Et puis, il y a aussi, Seigneur, eh bien, ce que tu nous dis, pleurer avec ceux qui pleurent dans l'Église, c'est vrai. Alors, tout cela, c'est la vie de l'Église et nous te remercions. Mais moi, ce que je te bénis aussi, Seigneur, parce que tu es monté au ciel, mais tu reviens bientôt. Et nous croyons qu'il nous appartient à chacun. C'est pas l'affaire d'un homme, c'est l'affaire de toute une église, d'une toute communauté. Eh bien, Seigneur, c'est de t'attendre et de continuer, Seigneur, à faire vivre la foi. Mais pas n'importe quelle foi, pas une croyance, pas une superstition, mais vraiment pas une foi religieuse. Mais, Seigneur, la foi de l'Esprit. Et nous te bénissons et nous te rendons grâce. Bénis ton peuple ce matin. Bénis mes frères et mes sœurs. Réjouis-les, Seigneur. Donne-leur d'avoir une vision, Seigneur, renouvelée. Que lorsque nous sommes à toi et que nous travaillons pour toi, mais c'est véritablement l'épanouissement. Et nous t'en bénissons et nous te louons. Et puis nous te remettons notre jeunesse, nos garçons et nos filles, parce que nous croyons que tu as de bonnes choses pour eux. Dans leur vie, Seigneur, à quelque niveau que ce soit, mais Seigneur, il y a tellement besoin d'une relève, un souffle, un nouveau souffle, un rafraîchissement dans l'Église. Alors, Seigneur, sers-toi de ces garçons, de ces filles, et bénis-les, Seigneur. Révèle-les des dons de l'Esprit. Donne-leur de porter des fruits, Seigneur, en équivalence. Et nous t'en bénissons et nous te remercions. Merci pour ta parole ce matin. Au nom de Jésus, amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.